Vous êtes sur RTL.
Dans quelques instants, notre invité vous propose de découvrir les pompes à chaleur Saunier Duval. RTL Soir, il est 18h50, c'est leur choix. Distribution des rôles, Thomas.
Quel suspense pour les pompes à chaleur, dis donc. C'est leur choix. Catherine Boulay qui regarde et nous raconte le monde. Julia Molcou qui nous sort et qui nous emmènera à une expo et pas n'importe laquelle dans un instant. Bonsoir, mesdames. Bonsoir.
Salut, patron.
On va commencer par aller en Tunisie avec vous, Catherine. La Tunisie qui est en train de vivre un coup de théâtre.
Oui, parce qu'à 5 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, l'un des deux principaux candidats, Nabil Karoui, va enfin sortir de prison. Son avocat l'a annoncé il y a un peu moins d'une heure. Et ça va mettre un terme à une situation absolument ubuesque dans le pays. Une campagne présidentielle sans son et sans image. Pour lui, pour Karoui, depuis son arrestation le 23 août dernier, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, c'est sa femme qui faisait campagne à sa place, puisque lui ne pouvait pas parler. Alors, au nom de l'égalité des chances, son adversaire, Kais Saied, soutenu par les islamistes d'Ennahda, il avait décidé de se taire aussi.
D'accord. Et même libre, est-ce que Karoui a une chance de l'emporter maintenant ? Comment ça va se passer ?
A priori, non. D'abord parce qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il est arrivé derrière son adversaire, Kais Saied, avec 15,6% des voix. Donc, il arrive deuxième. Et puis, si on regarde les chiffres des législatives qui viennent juste de tomber, en tout cas qui vont être confirmées ce soir, là encore, ce sont les islamistes d'Ennahda qui arrivent en tête. Et les islamistes d'Ennahda soutiennent Saied. Donc, ça y aide évidemment plus de chances de l'emporter.
Ok, il fait un peu plus de 18,4%.
Absolument.
Le second tour, c'est censé être quand ? C'est censé être
dimanche.
Ce dimanche. D'accord. Bon, on suivra évidemment tout ça en Tunisie. On va à une expo avec vous. Vous nous sortez. J'aime bien quand vous nous sortez, Julia Molcou.
J'adore vous sortir, Thomas Soto. Et aujourd'hui, je vous sors à l'exposition Toulouse-Lautrec.
J'ai l'impression qu'elle va mettre
Malais.
Aller promener le chien, quoi.
Toulouse-Lautrec, résolument moderne. Le Grand Palais lui consacre une exposition jusqu'au 27 janvier prochain. Et si vous passez par là, c'est vraiment à ne pas rater. Mais voilà un petit échantillonnage de ce que vous pourriez y apprendre. Henri de Toulouse-Lautrec est né à Albi en 1864.
Oui, car Toulouse n'est pas son prénom.
Non.
Voilà.
De parents issus de la très grande noblesse, mais qui étaient aussi cousins germains. Ce qui explique probablement la dégénérescence osseuse de Toulouse-Lautrec qui l'empêchera de dépasser le 1,52 m. On dit de lui d'ailleurs qu'il avait un torse d'homme et des petites jambes d'enfant. Très tôt, il est initié à la peinture et au dessin. Et immédiatement, ses parents comprennent qu'ils ont affaire à un génie. Et dès l'âge de 14 ans, il ne lâche plus ses crayons ni ses pinceaux, ce qui explique qu'à sa mort à 36 ans, il laisse plus de 6000 œuvres.
6000 œuvres, ça ira.
Non, ah oui,
il y en a vraiment beaucoup, c'est normal. Non, mais allez-y, allez-y.
6000 œuvres, dont 700 tableaux, 400 lithographies, bien sûr des milliers de dessins, sans compter toutes celles qu'il a détruites lui-même quelques semaines avant sa mort.
Comment il travaillait ?
Ben voilà, il dessinait vite. Lui, ce qu'il aimait, c'était saisir l'instantanéité, le détail, le mouvement. Et puis, alors qu'il venait de la grande noblesse, il ne se sentait jamais aussi bien que quand il se retrouvait dans les cabarets de Montmartre ou dans les maisons closes. C'est pour ça qu'il a la goulue et le contorsionniste Valentin le Désossé, fameux Valentin le Désossé.
Bon, mais est-ce qu'il a connu le succès de son vivant, Toulouse-Lautrec, ou est-ce que c'est venu après ?
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'abord le milieu
de l'art... Oui, ma question est intéressante.
Intelligente. Hein.
Le milieu de l'art comprenait très bien que Toulouse-Lautrec était un génie très en avance sur son temps. Mais c'était aussi ça le problème, il ne plaisait pas à tout le monde. Il peignait des filles de joie, ça ne pouvait pas entrer dans tous les musées. D'ailleurs, quand il est mort, sa mère a voulu léguer toute son œuvre aux musées nationaux, qui les ont refusés en disant « Non, pardon, c'est pas pour nous. » C'est dingue quand même, non ? Ouais. Ce qui va le faire connaître du grand public, ce sont évidemment les affiches publicitaires. Il n'en a fait que 30, à peine 30 d'ailleurs, et pourtant, c'est ce qui va faire que le public va le découvrir. Et vous savez comment ça commence ?
Non.
Eh bien, en 1891, merci Catherine, quand les patrons du Moulin Rouge organisent un concours pour réaliser la nouvelle affiche publicitaire du Moulin Rouge. Et qui gagne ?
Toulouse-Lautrec.
Et ben voilà, vous suivez. Voilà. Bon, il meurt le 9 septembre 1901 de la syphilis, mais aussi de son alcoolisme. Il avait une canne et il planquait de l'alcool dans le pommeau de sa canne.
Oh.
Il fallait y penser. Je vous donne cette petite astuce, Thomas. Bref.
C'est pas parce que j'ai des petites jambes qui vont tout vous permettre.
Cette expo, ce sont 200 œuvres de l'artiste exposées au Grand Palais, donc jusqu'au 27 janvier, dont une bonne partie qui ont été prêtées par des musées américains. Donc vraiment, c'est une bonne raison d'y aller. On les reverra pas de sitôt.
Et moi, ce que j'adore, par exemple, c'est sa signature. C'est une petite œuvre d'art, la signature de Toulouse-Lautrec. Voilà.
Tout chez lui est une œuvre d'art. Comme
c'est
chez
vrai.
Vous, Thomas.
Oh, allez, vous reviendrez demain, du coup. Merci beaucoup, mesdames.
À demain.
La météo. La météo, Peggy Broche, demain, ça ira un petit peu mieux.
Exactement, Thomas, parce que globalement, on aura moins d'averses, elles seront plus rares. Il en restera quand même demain matin, par exemple, entre les Hauts-de-France et le Grand.